Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
La gendarmerie a eu très clairement l'impression qu'elle avait face à elle des gens qui avaient un objectif, en découdre avec la force publique.
Une rêve partie qui a viré à l'affrontement entre teufeurs et forces de l'ordre cette nuit à Redon en Bretagne. 5 gendarmes blessés, un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main. Et nous serons sur place et nous serons avec la porte-parole de la gendarmerie nationale pour savoir où en est l'évacuation alors que près de 1000 personnes seraient toujours sur place. Dans l'actualité, le deuxième match des Bleus de l'Euro face à la Hongrie dans un stade chauffé à blanc puisqu'il n'y a pas de jauge minimale à Budapest. 60 000 spectateurs, au moins 5 000 supporters français attendus. Coup d'envoi 15h, à la clé peut-être une place en huitième de finale et une euphorie dont on a bien besoin, nous dira le professeur Michel Lejoyeux, qui sera mon invité. L'Iran a un nouveau président, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Nous serons à Téhéran. La météo, attention aux orages, nous dira Valérie Darmon, avec 41 départements en alerte orange. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur le procès de l'assassinat de Julie Douhib, tuée par son ex-compagnon il y a 2 ans en Corse. Marion Dubreuil va nous raconter comment l'audience a montré l'engrenage qui a conduit à ce drame, comme si rien n'avait pu l'arrêter malgré plusieurs plaintes déposées par la victime.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pour commencer, direction Redon en Bretagne, je vous le disais, avec 5 gendarmes blessés, un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main lors de la dispersion par les forces de l'ordre cette nuit d'une rave party illégale. Plus de 1500 personnes étaient rassemblées en hommage à Steve Maya Canisso, mort il y a 2 ans à Nantes lors de la fête de la musique. Le jeune homme était tombé dans la Loire lors d'une intervention de la police. Et donc cette nuit, cette rave party a viré à l'affrontement entre teufeurs et forces de l'ordre, Charles Guyard.
Oui, des affrontements qui ont duré 7 heures au moins selon les autorités, avec un bilan particulièrement lourd. Emmanuel Berthier, le préfet d'Ille-et-Vilaine.
Les gendarmes ont reçu des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des pétards. 5 d'entre eux ont été blessés. Dans ce contexte d'extrême violence, un jeune de 22 ans a perdu une main. Une enquête a été immédiatement diligentée par le parquet de Rennes qui fera la lumière sur ce dramatique accident.
Une violence extrême ressentie côté force de l'ordre, mais aussi côté fêtard. Écoutez Mathéo, qui témoigne par téléphone, car lui est toujours sur le site. Il ne peut le quitter. Les CRS bloquant tous les points de passage, aussi bien pour entrer que pour sortir. C'est un habitué de ce type de manifestation. Il décrit là une scène de guérilla.
Il y a beaucoup de véhicules brisés, des pneus crevés. Les gendarmes tapaient sur absolument tout ce qu'ils faisaient.
On n'a jamais vu ça dans le milieu festif électronique depuis en 30 ans d'histoire. On n'utilise pas des jeunes pour danser, enfin, ça n'a pas de sens.
À l'heure où l'on se parle, 7 ou 8 sound systems diffuseraient toujours de la musique malgré la pluie qui tombe. Ce Technival de musique interdite prévu jusqu'à lundi, selon les organisateurs, s'inscrit, vous le savez, dans un contexte marqué par le rebondissement dans l'affaire de la noyade de Steve Maya Canisso en marge de la fête de la musique en 2019 à Nantes. Et puis on est par ailleurs à quelques kilomètres seulement de Lieuron, le site, souvenez-vous, qui avait accueilli la fameuse rave party du Nouvel An, émaillée là aussi de scènes de violence avec les gendarmes.
Bonjour lieutenant-colonel Maddy Scherrer.
Bonjour.
Porte-parole de la gendarmerie nationale, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. D'abord, vous nous confirmez le bilan, 5 gendarmes blessés lors de la dispersion de cette rave party et un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main.
Écoutez, à ce stade, oui, je vous confirme le bilan. Donc, 5 camarades qui ont été blessés, dont 2 qui sont hospitalisés, dont j'attends des nouvelles, justement. Et effectivement, un jeune homme qui a perdu une main dans le courant de la nuit.
Est-ce qu'on en sait plus, justement, sur les circonstances de ce jeune homme qui a perdu sa main? Une enquête a été ouverte, je crois.
Tout à fait, une enquête a été ouverte et c'est cette enquête qui permettra de faire le jour sur toute cette situation. À ce stade, nous n'avons pas d'éléments supplémentaires de contexte qui permettent d'expliquer comment tout cela est arrivé. On était dans un contexte, dans le courant de la nuit, d'extrême violence, une déferlante de violence en fait à l'encontre des forces de l'ordre. Donc effectivement, comme nous avions l'information que un Technival allait se produire, eh bien nous étions prépositionnés sur la zone. Les personnes qui souhaitaient faire la fête, en tout cas une partie d'entre elles, n'ont pas accepté que nous soyons présents et nous avons été rapidement victimes de jets, de projectiles en tout genre, donc des parpaings, des boules de pétanque, divers projectiles qui, de toute façon, avaient à minima l'intention de blesser dans nos rangs, voire davantage, parce qu'on aurait pu aussi avoir des dégâts bien plus importants vu la violence des échanges cette nuit. Et donc, face à ça, nous avons cherché à disperser cet attroupement en usant de gaz lacrymogène. Donc ça, c'est pour les éléments de contexte des 7 heures pendant lesquelles les 350 gendarmes ont été engagés cette nuit. Et effectivement, au petit matin, on a appris que quelqu'un avait perdu une main dans le courant de la nuit. Mais néanmoins, nous n'avons pas d'informations sur les circonstances dans lesquelles c'est arrivé.
Alors, on le voit effectivement, beaucoup de confusion. Le préfet qui effectivement dit que ceux qui étaient sur place voulaient en découdre avec des heurts très violents. On a entendu dans le témoignage recueilli par notre reporter sur place un teufeur qui lui parle de guérilla livrée par les forces de l'ordre.
Oui, alors en fait, il s'agit quand même d'une fête sauvage, puisque un arrêté avait été pris par le préfet pour que ce Technival n'ait pas lieu. Malgré cette interdiction, des fêtards souhaitaient que cette fête puisse se tenir et comme de toute façon la gendarmerie applique les directives en la matière et notamment souhaitait faire valoir cette interdiction d'arrêter, elle était présente sur le site qui était visé pour l'organisation de cette fête. Les heurts qui ont suivi sont des heurts qui sont la conséquence des jets de projectiles que les gendarmes ont essuyés du fait de leur présence sur site.
Combien de personnes sont encore sur place ?
Alors actuellement, sur la zone, on compte un millier de personnes, dont peut-être 500 au cœur de la zone. Voilà, donc c'est un nombre relativement important.
Comment justement évacuer ces personnes pour éviter de nouvelles violences, attendre que la tension baisse ?
Alors attendre que la tension baisse et puis planifier une manœuvre opérationnelle, comme on le fait chaque fois que c'est nécessaire. C'est-à-dire organiser les choses, organiser l'évacuation de ce terrain pour que ça se passe dans les meilleures conditions, en tenant compte évidemment de ce site qui est très grand, des points particuliers du terrain, du nombre de personnes qui sont présentes. C'est une opération qui va manifestement prendre du temps en raison de toutes ces conditions et de ce contexte. Et nous sommes engagés dans cette manœuvre pour les prochaines heures.
Donc ça veut dire encore plusieurs heures effectivement avant que cette évacuation puisse avoir lieu et effectivement ces lieux soient définitivement évacués, si je vous entends bien, lieutenant-colonel Mahdi Scherer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 pour toutes ces précisions. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Dans l'actualité judiciaire, notez la mise en examen pour meurtre aggravé du mari de Delphine Jubillard, alors que cette infirmière, vous le savez, était portée disparue depuis le 15 décembre dernier. Direction maintenant Budapest, à un peu plus de 2 heures du coup d'envoi du deuxième match de l'équipe de France de l'Euro face à la Hongrie, dans un stade qu'on imagine chauffé à blanc, puisqu'il n'y a pas de jauge minimale à Budapest. 60 000 spectateurs attendus, 5 000 supporters français aussi qui ont fait le déplacement. On vous retrouve sur place, Cyril de la Morinerie. J'imagine qu'il y a une ambiance de feu dans ce chaudron hongrois.
Écoutez, c'est le retour au monde d'avant. Les supporters vont déferler dans quelques minutes vers la magnifique arène Ferenc Puskás, avec d'un côté les fans français en bleu et de l'autre les Hongrois, tous deux rouges, vêtus de marches parallèles autorisées par le gouvernement et encadrées par un important dispositif policier. Alors certains viendront également en métro qui, pour la petite histoire, est plus ancien que celui de Paris. Les fans de l'équipe de France ont investi Budapest depuis quelques jours, heureux de faire la fête et impatients de retrouver des travées pleines, de ressentir les frissons des grands matchs. Ses amis venus de régions parisiennes sont certains que les Bleus vont l'emporter.
Là, c'est tout à l'heure le match. On va tout donner. Moi, je pense un 3-0. Honnête pour les Français, 3-0 facilement.
Ah oui. Ouais. Je pense qu'on est largement en dessous de la Hongrie. Après, si Dédé fait tourner, peut-être qu'il y a certains joueurs qui voudront plus se montrer.
Là, on voit qu'il y a beaucoup de supporters français sur Budapest. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance. Même si les Hongrois font du bruit, on va en faire aussi.
Super hâte, ça va être le feu.
Super ambiance dans la ville, mais on va représenter notre pays. Et fier des Bleus, on va gagner.
Voilà, mais attention, les fans hongrois seront déchaînés, d'autant que le foot est devenu un enjeu national. L'objectif étant de marquer les esprits face aux champions du monde. Dans cette caisse de résonance, les près de 5000 supporters tricolores devront tout donner pour se faire entendre. Les irrésistibles Français ont prévu tambour et drapeau et ils ont désormais hâte d'entonner une belle Marseillaise.
Voilà, on entend qu'ils ont effectivement envie de donner de la voix, de quoi galvaniser Jean-François Pérez, les Bleus, pour ce match dont l'enjeu sportif est très clair.
Oui, une victoire et c'est la qualification assurée pour les huitièmes de finale. Hein. Voilà l'objectif de cette torride après-midi hongroise. Les Bleus qui ont déjà englouti leur déjeuner en fin de matinée. Une micro-sieste et le départ au stade dans quelques minutes. Sachez que Didier Deschamps ne devrait pas apporter beaucoup de changements, voire pas du tout d'ailleurs, à l'équipe qui s'était imposée en Allemagne mardi et qui avait impressionné l'Europe par sa solidité. Les trois stars de l'attaque seront là, Benzema, Mbappé et Antoine Griezmann qui fêtera cet après-midi sa 50e sélection d'affilée chez les Bleus. C'est un record absolu en équipe de France. Le tout, Cyril vous l'a dit, dans une enceinte magnifique, la seule construite pour 7 euros, 60 000 spectateurs déchaînés. Une équipe hongroise qui est condamnée à l'exploit aussi, hein, face aux champions du monde après sa défaite 3-0 face au Portugal. Voilà, coup d'envoi 15h avec une température ressentie qui devrait dépasser les 35 degrés. Oula. Donc pause sans doute au milieu de chaque mi-temps pour que les joueurs puissent se rafraîchir.
Voilà, du beau spectacle en perspective à suivre, bien sûr, sur Europe 1 avec vous, Jean-François Pérez, et avec Cyril de la Morinerie. Et dès 14h d'ailleurs, ce sera Europe 1 Football Club avec Lionel Rousseau.
Europe Midi. Fabienne Lemoelle.
Et l'Iran a donc un nouveau président, ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais alors que 90% des bulletins ont été dépouillés, c'est l'ultra-conservateur et surtout l'ultra-favori Ibrahim Raisi qui fait la course en tête. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran et c'est un homme qui n'est pas forcément connu en Occident.
Eh bien, Ibrahim Raisi, ce sont 40 ans passés dans les arcanes du pouvoir iranien. Originaire de la ville de Mashhad, vitrine de l'Iran conservateur et lieu de naissance du guide suprême, il est même considéré comme étant le fils spirituel d'Ali Khamenei. Sa carrière se fait au sein du système judiciaire. Il laisse notamment un très mauvais souvenir aux Iraniens parce qu'à la fin des années 80, il est à la manette d'une série de procès politiques. Des centaines d'opposants sont alors emprisonnés ou exécutés. Pas de bon augure pour Vijan, habitant Téhéran.
Si des manifestations se produisent à nouveau à cause du prix de l'essence, comme en 2019. Cet homme n'aura aucune pitié. Il fait partie du système et de la clique du guide suprême.
Ce passé lui vaut de figurer sur la liste noire des responsables iraniens sanctionnés par Washington, une situation qui risque de le gêner dans ses projets de relance économique de l'Iran, une relance impossible sans obtenir la levée des sanctions internationales.
Jean-Sébastien Soldaini, on vous retrouvera d'ailleurs dans Tout Terrain dans quelques minutes pour ce scrutin qui n'a pas soulevé l'enthousiasme, mais qui est pourtant crucial à un moment clé pour le pays, alors que les discussions sur l'accord nucléaire iranien ont repris avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis. On pourrait dire recherche désespérément assesseur avant le premier tour des élections régionales et départementales. C'est demain, deux scrutins le même jour, ça veut dire deux fois plus de besoins pour tenir les bureaux de vote. Pas facile de trouver des volontaires quand cela coïncide avec le retour des beaux jours et la levée des restrictions sanitaires. Certaines communes sont donc toujours à la recherche de ces assesseurs. Reportage à Montreuil de Nicolas Feldman.
Participer à la vie démocratique de ma commune et de mon pays.
Et c'est un sursaut citoyen, une petite annonce dans le journal communal qui a poussé Elliot, 26 ans, à se porter volontaire pour devenir assesseur.
Dans ma génération, mes connaissances ne sont pas forcément très intéressées par cette élection. Ça reste une des tâches assez simples à faire. Vérifier les pièces d'identité, conseiller les personnes, les faire émerger, les faire signer, diriger le dépouillement.
Mais à la veille du scrutin, Thibaut Matisse, le directeur des marches de la ville, continue de faire ses comptes.
C'est la dernière ligne droite.
Encore une bonne dizaine de volontaires à trouver pour les deux scrutins de demain.
On a encore une vingtaine de bureaux sur lesquels il nous manque un assesseur. Sur les 228 assesseurs, on est à 210-215. Ça monte en fait au fur et à mesure des personnes qu'on arrive à identifier. Donc on continue à mobiliser des Montreuillois par des appels à volontariat, des appels à la population.
La mairie garde bon espoir de trouver d'ici demain matin les derniers volontaires. Si ce n'est pas le cas, le président du bureau de vote pourra, comme lui permet le code électoral, réquisitionner un ou plusieurs votants.
Et pour terminer l'actualité sportive avec un mot de rugby, la demi-finale du top 14 qui va opposer Toulouse à Bordeaux-Bègle et on saura qui va rejoindre La Rochelle en finale. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et ça va tonner dans le ciel de France, Valérie Darmon. 41 départements en vigilance orange aux orages.
Effectivement, Fabienne, l'activité pluvio-orageuse qui se généralise à l'ensemble déjà à l'heure qu'il est du littoral atlantique sur toute la façade de ouest. L'orage gronde, donnant même de la grêle par endroits. Ces pluies soutenues ou ces averses orageuses s'étendent ensuite vers l'intérieur des terres très rapidement. Et pendant ce temps-là, dans l'est, les 30 degrés sont déjà approchés à l'heure qu'il est d'ailleurs en plaine d'Alsace et 28 degrés du Val-de-Saône au Lyonnais. L'ambiance est particulièrement lourde avec un ressenti de 35 sur Strasbourg et sur Colmar. Et cet après-midi, la situation qui va se dégrader de l'Occitanie au centre, les orages qui vont remonter vers le bassin parisien, balayés donc par la vague orageuse à partir de 17-18 heures. Ça va cogner assez fort parce que ces orages s'organisent en ligne et sous les plus violents d'entre eux. Des pluies intenses sont attendues en une heure, jusqu'à 50 mm de pluie, mais aussi de violentes rafales de vent entre 80 et 100 km/h.
Et est-ce qu'on peut compter sur une accalmie ce soir ?
Alors pas ce soir, demain soir, hein, et ni cette nuit. Les orages cette fois vont toucher dès 21h les régions allant des Hauts-de-France aux Ardennes, de l'Auvergne à la Bourgogne à la Lorraine, mais également en descendant vers le Massif central et le Lyonnais.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, nous voici à 2h du coup d'envoi de Hongrie-France, un moment de convivialité, pourquoi pas d'euphorie dont on a bien besoin après ces mois sans vie sociale comme une petite renaissance. Est-on vraiment prêt à en profiter à fond ? On en parle avec le professeur Michel Lejoyeux, chef du service psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et c'est comme un air de liberté qui semble souffler sur le pays avec la fin du couvre-feu attendu demain, le masque qui n'est plus obligatoire à l'extérieur et le beau temps, même si ça tonne un peu aujourd'hui, nous le disait il y a quelques minutes Valérie Darmon. Tout ça avec en plus un match des Bleus dans 2 heures maintenant face aux Hongrois à Budapest. Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour, merci de cette invitation.
Chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris, auteur chez Jean-Claude la thèse des 4 temps de la Renaissance. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Cette joie qui s'exprime aux terrasses des cafés, ces cris qu'on entendra peut-être encore dans quelques heures pour saluer les buts de l'équipe de France, on en avait tous vraiment besoin. C'est ce que vous appelez une petite renaissance ?
Absolument. Vous savez, j'ai écrit sur les 4 temps de la Renaissance en plein confinement, en anticipant, en espérant ces moments où justement on va pouvoir recevoir un peu autre chose que des messages de menaces sanitaires, d'inquiétude, de faites attention. On reçoit là un message d'émotion positive. C'est le moment de le vivre pleinement.
Vous dites pourtant attention à cette euphorie qui ne doit pas nous illusionner, c'est-à-dire ?
L'euphorie, d'abord on en profite. N'allons pas inventer une nouvelle maladie qui serait au fond la maladie du déconfinement. J'ai 2 bémols parce que je suis médecin. Le premier bémol, c'est de penser à celles et ceux qui ont été le plus atteints par la pandémie, qui ont cassé leur machine à ressentir de l'euphorie, qui aujourd'hui n'arrivent pas à prendre plaisir. N'oublions pas cela, et ils ont droit d'être aidés, on peut les aider et on peut leur redonner cette capacité à prendre du plaisir. Mon deuxième bémol, c'est l'euphorie, oui, l'ivresse, le coma, la violence sous l'effet de l'alcool, non. Vous voyez, c'est les 2 bémols avec une grosse note de musique positive qui est quand même ce moment d'émotion agréable.
Alors justement, comment bien vivre ce moment d'émotion agréable pour qu'il perdure ?
Déjà, il faut le vivre avec cette conscience de l'instant présent. On a suffisamment dégusté, si j'ose dire, de moments difficiles pour déguster cette sensation positive, la ressentir, ressentir la détente physique, le plaisir, voir le sourire de celles et ceux qu'on croise en face de nous, pouvoir répondre par le sourire. Vous savez, il faudrait pas que très très vite, on se réhabitue à ces conditions agréables et qu'on finisse par les occulter. Vous savez, on a un cerveau qui fonctionne d'une manière étonnante. Il se souvient mieux et il est plus attentif dans les moments de stress, dans les coups difficiles, que dans les moments agréables. Donc il faut faire un petit effort pour vivre à fond le moment agréable.
Ça veut dire qu'effectivement, notre cerveau en ce moment reçoit des messages un peu contradictoires. D'un côté, ces messages d'optimisme, cette euphorie qu'on vit à travers, en plus, cet événement sportif. Il y avait quand même 15 millions de téléspectateurs pour regarder le premier match de l'équipe de France de l'Euro, mais aussi des messages de risque, c'est-à-dire
Oui, c'est l'optimisme 2021, c'est l'optimisme post-pandémie. Vous vous souvenez, avant la pandémie, vous faisiez des émissions sur le bonheur, sur l'épanouissement complet, l'épanouissement personnel. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, on a un optimisme réaliste. On anticipe des choses positives, on goûte l'instant présent, mais nous n'allons pas diminuer ou abolir cette notion de risque qui ne va pas nous empêcher de prendre du plaisir, mais qui ne va pas donc abolir cette notion de santé. C'est-à-dire qu'au fond, les masques tombent, on suit les matchs de foot, on est content, mais nous devons rester concernés de manière souriante mais vigilante par notre santé.
Alors justement, vous dites les masques tombent, c'est ça aussi la particularité depuis quelques jours, c'est que on n'a plus l'obligation de porter les masques à l'extérieur. C'est important de revoir des visages, des sourires.
Bien sûr, nous réapprenons une nouvelle convivialité. Vous savez, on s'est aperçu dans les moments difficiles qu'on avait besoin du groupe. Nous, à l'hôpital, on s'en est sortis en travaillant en équipe, parce qu'on a traversé des moments difficiles. Et on s'est aperçu à quel point la notion d'équipe, la notion d'entraide était importante. Mais il fallait faire un effort. Vous vous souvenez de toutes les manipulations qu'il fallait faire sur nos téléphones ou nos ordinateurs pour garder un peu de convivialité. Aujourd'hui, la convivialité est concrètement plus facile. C'est une raison de plus de la rechercher. Ça, il y a une toute petite expérience qui vient de mes collègues du King's College à Londres, qui montre que quand vous rencontrez une personne nouvelle, une personne que vous n'avez pas vue, par exemple, depuis 2 ou 3 mois, que vous entrez en contact avec elle, on a la chance maintenant que ça puisse être en direct, vous vous chargez en émotions positives et en résilience. Donc, utilisons ce plus de liberté pour avoir un plus de sociabilité et d'affection entre nous.
Est-ce qu'on va avoir besoin de réapprendre à vivre ensemble? Parce qu'on l'a oublié quand même pendant tous ces mois.
Je crois que c'est un peu comme, on dit que c'est un peu comme le ski, ou c'est un peu comme, c'est très instinctuel. Je ne pense pas que nous allons avoir des consultations hospitalières remplies de personnes qui me disent, j'ai plus de masque, je peux voir des copains, je peux aller boire un verre en terrasse, aidez-moi pour ça. Non, ça va revenir. Simplement, je voudrais pas que ça revienne sur un mode d'habitude et d'indifférence.
Vous parlez aussi d'anticipation positive, c'est-à-dire?
L'anticipation positive, c'est se projeter dans quelque chose dont on se dit qu'il va nous être favorable. Ça peut être quoi? Ça peut être visualiser, ça peut être y penser. Vous savez, on a tellement anticipé ce moment où on aurait un petit peu plus de liberté que là, on a vraiment envie de le vivre à fond. Et tout le sujet aujourd'hui, c'est de confronter ce que nous vivons dans l'instant présent à ce que nous avons imaginé. Et peut-être qu'on peut se servir rétrospectivement de tout ce qu'on a anticipé dans les moments où on était contraint pour encore mieux profiter de ces instants présents. Qui nous aurait dit il y a quelques mois qu'on allait revoir dans des conditions de convivialité un peu allégées et un peu meilleures, par exemple les matchs de l'équipe de France?
Qu'est-ce qui inquiète quand même l'addictologue que vous êtes?
Ce qui inquiète l'addictologue que je suis, c'est qu'au fond, ce moment de libération émotionnelle, de libération comportementale, soit vécu comme une obligation de boire. Vous savez, on peut faire la fête. Moi, je suis tout à fait pour la fête. J'aime la fête. Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de la fête. Vous savez, comme il y avait un film là-dessus sur le sens de la fête. Au fond, une fête, ce n'est pas un moment de violence, ce n'est pas un moment d'ivresse, c'est un moment de convivialité. Et l'autre chose que la dictologue que je suis regarde de près, ce sont les paris. Les murs de Paris sont remplis d'affiches vous incitant à dépenser votre argent sur des paris, à parier sur les matchs de football. Pourquoi pas, mais très ponctuellement, là aussi, le jeu d'argent peut donner lieu à une dépendance.
Un dernier mot, profitons quand même de ce moment, j'imagine. Rechargeons nos batteries.
Profitons-en. Vous savez, en écrivant sur les temps de la Renaissance, j'ai redécouvert un temps du français qui est merveilleux, qui est le gérondif. Vous savez, c'est ce temps qui commence par « en » et avec un participe présent. En marchant, en jouant, profitons de nos nouveaux gérondifs et imaginons des situations qu'on va pouvoir maintenant vivre où va se mélanger de la convivialité, de l'altruisme, du plaisir parce qu'on participe à des événements collectifs, et puis aussi redécouvrons, mais on les a pas beaucoup quittés, les plaisirs de la nourriture, de tous ces moments qui aujourd'hui nous sont offerts. Et si d'aventure, je veux vraiment terminer là-dessus, si on se sent incapable de les ressentir, c'est un indice de souffrance vis-à-vis duquel il ne faut pas hésiter à consulter.
Merci beaucoup, professeur Michel Lejoyeux. Je rappelle, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris, auteur chez Jean-Claude la thèse des quatre temps de la Renaissance. Eh bien, d'avoir évoqué avec nous cette petite Renaissance, effectivement, avec 7 euros qui créent de l'euphorie. Et comme ça fait du bien. Merci à vous.
Merci.
Et vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur le procès de l'assassinat de Julie Douilly, tuée il y a 2 ans par son ex-compagnon en Corse.